des réactions.
comment ça se passe du coup au quotidien dans votre centre? Parce que c'est des consultations, quand tu es médecin généraliste, tu fais des consultations de médecine générale, mais après vous avez du coup des réunions en équipe pluridisciplinaire avec des patients sur des thématiques, enfin, ça prend quelle forme?
Ça prend plusieurs formes. Sur le quotidien, effectivement, il y a des consultations classiques, mais pas si classiques, parce qu'on a fait le choix d'avoir des temps de consultation volontairement très longs, justement pour poser la question de l'environnement et des déterminants de la santé, etc. Du coup, on interroge beaucoup l'environnement avant d'interroger la question de la maladie et du motif même. Ensuite, il y a des temps d'échange qui sont réservés à la gouvernance partagée, qui pour l'instant n'inclut pas d'habitants ni d'usagers, habitantes et usagères, tout simplement parce que ça fait qu'un an et demi qu'on est ouvert et que l'idée étant là de commencer à construire un comité usager, mais que c'était pas question de débuter à l'ouverture, on a déjà besoin de nous stabiliser. Et ensuite, le dernier volet, c'est l'action collective, effectivement, qui peut se passer soit avec les partenaires du territoire, soit avec les habitants. Et donc là, on a toute une phase d'identification des besoins. On commence juste maintenant à construire l'action collective.
D'accord. Et comment la population accueille ça, du coup, les usagers? Est-ce qu'ils sont actifs?
Ouais, alors après peut-être que Ben et Camille peuvent aussi réagir.
Déjà, c'était ce que tu as dit, une donnée qui est très très importante, c'est de se dire déjà que les personnes à l'origine de ce centre ne sont pas les usagers. C'est quelque chose des fois qu'on a tendance à oublier. Ça, c'est une principale. Ce n'est pas les habitants qui ont pris un besoin, cherchant un besoin, porté ça, ouvert le centre, et après solliciter des professionnels de santé pour venir dans le centre. Donc là, c'est les personnes, les professionnels de santé qui sont venus à l'échelle du territoire, qui sont installés. Donc ça, déjà, c'est le. Donc moi, je n'ai pas été à l'origine du projet d'ouverture Camille, tant qu'on en vu que moi, mais il y a toute cette phase aussi de prise de. De tisser du lien, de prise de s'implanter dans un territoire. Donc la volonté est très locale. Hein. Camille, je te laisse peut-être rebondir sur cette phase-là du lien avec.
En fait, je pense que tu sais assez. Tu as résumé tout ça en disant que c'est une question de posture. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de partir d'une obligation légale, les CVS, les machins, là, et d'essayer de mettre des usagers là-dedans, nous, un peu par la force, au pied de biche, quoi, nous, on est plus partis en pensant tout le projet avec en tête la place des usagers, quoi. Tout est conçu avec la place des usagers. Ouais. Du coup, on leur laisse cette place à tous les niveaux du projet. La place est là. Et ce qui est intéressant, c'est d'observer comment ils viennent prendre cette place. Et du coup, il y a des espaces qui sont là. Et au début, ils ne se les appropriaient pas. Et là, on l'a vu, il y a eu ce tournant de la fête d'un an, où ils sont venus dire « Ah ben nous, on veut cette place finalement. » Et c'est eux qui sont venus nous dire « Mais en fait, nous, on veut faire une association d'usagers. » On leur a dit « Bah oui, on avait un comité des usagers qui était prévu dans notre projet. » Donc c'est ça, en fait. Donc c'est assez intéressant de voir comment cet espace qu'on leur avait laissé, on ne les a pas forcés dedans, mais c'est eux qui sont venus l'occuper. Ils sont en train de venir l'occuper.
Mais il y avait l'espace libre.
Mais il y avait cet espace libre. Parce qu'on avait la posture de dire l'espace, il est là. Nous, on le laisse. Quoi. Et je pense que finalement, c'était un bon compromis entre forcer les usagers artificiellement à s'impliquer sur un projet qui était en train de se créer, c'était un peu compliqué. Et puis le fait de faire sans eux, quoi. On a essayé de trouver un compromis et je trouve qu'il est pour le moment. Donc ça se fait naturellement en fait. Ils sont en train de prendre la place, naturellement.
Et comment l'usager il pense à,
comment il comprend qu'il y a un espace à saisir. C'est-à-dire que moi, la personne qui vient à mon cabinet, elle ne va pas me dire ah, bah, j'aimerais bien participer. J'aimerais bien faire un truc dans votre cabinet.
Changer un peu la
déco. Ça tombe bien, on n'avait pas les moyens de reprendre.
C'est qui un usager déjà? C'est quelqu'un qui est soigné? C'est un patient?
C'est même pas forcément quelqu'un soigné d'ailleurs. C'est quelqu'un qui pousse la porte. Oui, c'est quelqu'un qui pousse la porte et qui vient avec une demande ou une information ou n'importe quoi. Le soin, en tout cas la consultation de médecine générale, c'est une porte, mais c'est pas la seule porte. Et puis il y a des gens qui viennent pas du tout dans le cadre de la consultation et qui sont pourtant très impliqués. Et comment ils viennent, je pense quand même que depuis le début, on a présenté quotidiennement le projet comme un projet qui méritait de se co-construire et que on était très ouverts à toutes les propositions et que s'il y avait des envies, on avait des espaces d'échange pour ça. Il y a eu des temps de thé-café vraiment animés de recueil des besoins. Il y a eu des temps un peu plus spécifiques, un peu plus fermés, où les gens venaient faire des propositions. Et puis en fait, c'est aussi, mine de rien, un quartier où il y a une vie associative qui est très forte. Et ça, c'est pas négligeable, c'est-à-dire qu'en fait, la participation, elle se fait déjà quotidiennement dans d'autres espaces et qu'en fait, c'est pas si compliqué de la créer. Et du coup, ça pose justement la question d'avoir des personnalités qui s'investissent déjà dans plein de lieux et qui viennent aussi, mine de rien, réoccuper un espace en y évinçant plus ou moins volontairement d'autres personnes qui seraient plus là quotidiennement, mais pour qui la place est difficile.
Parce que quand on parle de participation des usagers, on a l'impression de prendre ça comme un tout homogène, des dans l'ensemble, un bloc monolithique. Alors que...
Mais ça, le terme communautaire est intéressant parce que il porte à la fois cette idée associative, voilà, il y a les usagers, le territoire, la communauté, au sens anglo-saxon du terme. Et en même temps, tu parlais de consultations plus longues. Et moi, derrière le communautaire, je vois aussi ce qu'il y a en commun, et pas simplement le commun entre les usagers qui sont d'une même communauté dans laquelle vous arrivez, mais il y a la dissymétrie. Quand je vais voir un médecin, c'est parce qu'il a un savoir que je n'ai pas. Si j'avais le même savoir, je n'irais pas le voir. Encore que les médecins ont eux-mêmes un médecin. Mais j'étais toujours frappé. J'ai été et je suis... usagé à long terme de la médecine. J'en discutais récemment, retrouvant mon médecin après 5 ans d'absence de Lyon, je revais sonner ce même médecin, qui prend du temps et qui me demande comment ça va et à qui je demande comment ça va. Et on se faisait la réflexion, c'était très rare dans une relation entre un patient, usagé a l'avantage d'être actif, mais il suppose qu'il y a un administrateur, le médecin, et un créateur, le pouvoir politique de la structure. Ce n'est pas une relation symétrique que j'ai avec mon médecin. C'est mon médecin, je suis son patient. Mais il y a quand même cette humanité commune qui fait que je peux lui demander et qu'elle peut me répondre dans des normes éthiques et déontologiques, mais qu'elle peut me répondre quand je lui demande comment ça va. Et c'est pas si courant. Dans cette, je pense que c'est un des enjeux aussi de ces groupes-là. Qu'est-ce que nous avons en commun au-delà de nos spécificités? Je relisais, là, non pas le manifeste, on en a déjà parlé, mais tout autour, je ne sais pas si vous avez vu... Il y a des noms de signataires de ce manifeste et comment ils se définissent. Alors, ils se définissent comme chercheurs, médecins ou usagers, mais aussi parents, engagés dans des associations ou des choses qui les spécifient, par lesquelles ils ont voulu se spécifier, sans que c'est forcément un lien direct. Avec l'objet du manifeste, voilà, donc j'ai un hashtag gay ou artiste. Qu'est-ce qui nous spécifie et qu'est-ce que nous avons en commun dans la question de, du soin, voilà, la relation rogerienne est dissymétrique. Et si elle est que dissymétrique, voilà. Pardon, oui.
Non, mais c'est bon, c'était juste pour ça, si j'avais bien compris.
C'est quoi la relation
Carl Rogers, voilà, la relation de soins d'accompagnement, enfin voilà, tout ce soin qui fait qu'il y a. Qui définit la dissymétrie de cette relation-là où il y a. Un analyste et un analysant, un accompagnant, un accompagné, un patient et un médecin, voilà, toutes ces relations où quelqu'un a une personne offre une aide à une autre personne.
Et après, Benoît, juste pour poser la même question, je te donne la parole.
C'est ça, la dissymétrie.
Là, c'est
une
belle balle dans le pied. Oui, dans ce travail-là, autour des droits, les gens qui sont non professionnels et non académiques, comment ils arrivent, disons par biais d'associations, mais comment ils, individuellement, comment. Oui, comment ils arrivent dans le truc, comment ils prennent. Alors, autant universitaire, je vois bien l'intéressé, le professionnel aussi, mais voilà.
Comment on leur donne la parole?
Comment elles arrivent? Comment elles prennent elles-mêmes? Est-ce qu'on les supplie? Est-ce que la société dit bon, toi, écoute, il faut les mais s'il y en a vraiment qui.
Les cas de figure sont assez nombreux. Le plus simple. Dans la première phase, il y avait un groupe où il y avait un établissement, un CHRS en l'occurrence, où un usager du CHRS et une professionnelle du CHRS ont envie de s'impliquer dans le cap droit. Ils font venir du monde, ils en parlent, ils rappellent dans l'informel « Ah, il y a un atelier, tu viens pas ». La vie informelle du groupe qui permet la présence, quoi. Le plus simple. Le plus compliqué, il y a le Grand Lyon qui se dit « Ah tiens, on a envie de faire participer nous aussi, vous voulez pas faire un truc cap droit avec nous ?» Donc on fait passer l'info par le Grand Lyon pour arriver jusqu'à des gens qui participent à des dispositifs logement d'abord. Ça fait 6 mois, on a toujours... aucun participant, quoi. L'information, on ne sait pas si elle leur est arrivée ou non. Donc, si le relais partenarial, c'est une instance un peu trop injonctive, ça ne marche pas. Le plus courant, c'est 3 facilitateurs-chercheurs, ça veut dire 3 personnes qui ont des réseaux un peu différents. Bon, chacun appelle un peu son réseau et puis qui vient se rassemble. Voilà, le groupe se constitue comme ça à partir d'un appel à participation commun où les gens se sentent ou non concernés. Et donc s'ils viennent, c'est qu'ils se sentent quelque part concernés. On ne sait pas toujours. Un autre exemple, ça ne répond pas à ta question, mais c'est un autre point. Parfois, il y a des personnes qui viennent, je me dis, mais c'est pas vous que je cible. C'est peut-être ce que tu évoquais quand tu disais, il y a des personnalités là, qui sont dans toutes les assos et on n'a pas envie de les voir là. Bon, c'est pas eux, c'est pas les assos. Moi, j'ai une tendance, mon réflexe, c'est là-dessus. L'autre jour, il y a une personne qui vient en groupe, elle commence par décrire tout son patrimoine immobilier. J'ai l'impression qu'on n'est pas dans la vulnérabilité à exercer ses droits. Mais... en fait, ma projection aussi, quoi. C'est peut-être intéressant qu'elle soit là aussi, peut-être.
Ouais. En fait, je sais pas, si je connais un peu l'histoire, donc je ne vais pas revenir. Mais en fait, dans ce que vous dites tous les deux, il y a quelque chose qui me frappe. C'est c'est que tous les deux, vous partez d'un constat qui est un constat d'insatisfaction dans votre champ de compétences respectives. Et donc, un désir, à partir de ce constat, de travailler autrement en tant que chercheur ou travailler autrement en tant que médecin. Et du coup, la question de la participation est convoquée par vous, pas par rapport au fait que les... Enfin, peut-être aussi, mais c'est une question que je me pose, peut-être pas par rapport au fait d'emblée, enfin, ce qui fait énergie, ce qui fait désir, par le fait qu'il faudrait que ces gens qui sont vulnérables participent, parce que finalement, s'ils voulaient participer, ils pourraient, il y en a d'ailleurs qui le font, ils deviennent des experts de la participation, on vient de le dire, mais par votre propre désir. Je ne sais pas quoi en faire là pour l'instant, mais la question des usagers est très souvent posée de cette manière-là. C'est-à-dire, c'est le désir des professionnels ou des chercheurs ou des politiques. La ville de Lyon, elle a un désir aussi de faire participer. Alors, c'est pas des histoires de vitrine, mais après, c'est compliqué. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Enfin, je veux dire, quelle vision? Alors, c'est ma question, c'est un peu ça. Quelle vision de transformation sociale ce désir porte de la part de vous?
Je vais tenter d'ouvrir deux trois brèches, hein, parce que tout est vraiment très... Simplement, juste pour faire un petit peu, mettre le rapport entre... Tu as parlé aussi de santé globale à un moment et santé communautaire, et a priori, des fois, on prend les deux en un. Il y a quand même une distinction à faire, parce qu'après, ça peut nous entraîner aussi, sur ce que tu dis. Parce que partir dans la santé globale, c'est sortir peut-être un peu d'une vision médicale assez cloisonnée, hein, de décloisonner un peu le médical avec une dimension plus sociale, voir les déterminants sociaux de santé, donc on va dire clairement que la santé a des causes clairement structurellement peut-être politiques, sociales, etc., les déterminants sociaux. Donc c'est partir sur ce constat, essayer d'y agir. Mais par contre, de parler de santé globale... On ne dit rien du pouvoir, en fait. Quid du pouvoir, du rapport au pouvoir. Et c'est quand on se rentre dans le champ de la communautaire, on réinverse le rapport aux politiques, qu'ils soient aux politiques de l'association, aux politiques d'un État. Il y a un renversement de facto.
Sur la question du pouvoir, tu veux dire?
Sur la question du pouvoir. Ouais. Et donc, pour répondre à ta question sur une visée de transformation sociale, je dirais que, par exemple, la participation dans une démarche dite un peu communautaire serait peut-être de vouloir la santé, on va dire, dans ce cas-là, c'est un peu l'idée, la santé pour tous, quoi. Hein. Mais en préalable, d'y instaurer une forme d'égalité politique plus forte. Que l'égalité sociale de santé, que tout le monde ait un accès à la santé vraiment bonne, passe par une égalité politique, qu'elle soit à l'échelle locale, et après, peut-être, la rendre de plus en plus... accessible à une échelle dite nationale. Donc je pense que ça s'inscrit dans une volonté de démocratisation vraiment des institutions du local général. Donc là, il y a peut-être un truc, en tout cas, moi, c'est comme je le vois, cette volonté de la participation, c'est pas participer pour rien faire, quoi. Je disais, des fois, la participation, elle a horreur du vide. Des fois, on dit, là, on participe, on participe. Nos appels à projets qu'on répond tout le temps, on nous demande, les fondations à tout va, quid de la participation, est-ce qu'ils participent tous, mais enfin, de qui, de quoi, pourquoi. Alors que le projet, il est cloisonné déjà, le thème est déjà ancré. Enfin, il y a tout un truc qui est... Donc, je pense qu'en repartant sur cette base de volonté, de rapport au pouvoir, alors après, en perspective de changement social, oui. Pourquoi ? Voilà, la sociologue qui parle dans une démarche un peu plus de type castoriadiste, peut-être une société de l'autonomie. Je suis un peu plus, moi, dans cette mouvance, à vouloir qu'une autonomie véritable des personnes, dans ses dimensions profondes, hein, individuelles, sociales, dans le rapport à la santé, voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça de dire que nous, on a une tension, je pense, même nous au sein, c'est quand on a fait cette distinction, pour moi, entre travailler sur la santé globale, donc essayer de travailler sur tous les déterminants, mais aussi travailler sur la santé communautaire, les deux peuvent rentrer en tension, en fait. Parce que la santé globale peut avoir une perspective du soignant, ne change pas le rapport au pouvoir, le soignant peut être dans une démarche de protection en permanence pour l'autre, voire aller tirer jusqu'à l'assistentialisme, peut-être. Alors que la démarche communautaire serait davantage dans une démarche d'émancipation et de vouloir éviter aussi à tout prix une forme d'assistentialisme. Mais alors que les deux, nous, dans les offres, c'est une balance, en fait. Et la balance peut tourner dans l'un, l'autre, etc. Et au sein d'un même collectif, même de taille réduite, il y en aura qui ont des sensibilités un peu plus grandes des deux côtés. Et pour nous, l'idée, l'un ne peut pas aller avec l'autre, participer pour participer, oui, pourquoi ? Ça doit s'inscrire dans une démarche de santé globale, mais une démarche de santé globale, si on n'y intègre pas la participation des personnes, on redéfinit pas le rapport au pouvoir. Bref, c'est tout. Voilà, je sais pas si j'ai répondu un peu. Voilà.
C'est ta réponse.
Ouais, 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 non, ce que t'as dit, mais, c'était ça que je voulais dire. Et dans une démarche de changement, je dirais, voilà, sur. Je répondrai à ça. Un exemple, mais même au quotidien, hein, un exemple bête, sur la gestion des rendez-vous non honorés. Par exemple, on en parle souvent, c'est une question. On a beaucoup de rendez-vous non honorés. Et donc on travaille sur la question de la précarité, beaucoup de liens sur le rapport à la temporalité, etc. Et c'est vrai qu'on a des taux quand même importants. Et donc on se dit, soit c'est une cause structurelle et dans laquelle on l'accepte telle qu'elle est. Et puis c'est comme ça. Soit peut-être dans l'autre sens, on essaie de travailler dessus pour voir comment on peut faire pour faire changer ça et se dire que non, s'il n'y a rien de structurel et de travailler dans un dynamisme. Et tu vois, ça c'est des questions qui peuvent cohabiter. Voilà.
Moi je voulais rebondir sur un truc sur le rapport au pouvoir et la posture, parce que du coup je trouve ça super intéressant que vous ayez cette ouverture vis-à-vis des patients, mais est-ce que vous êtes dans cette ouverture là vis-à-vis des soignants qui sont pas dans cette démarche là? Est-ce que vous essayez on leur parle pas, est-ce que c'est là où à mon avis il y a un vrai enjeu principal? Avec Camille on est du même milieu associatif et on a à peu près la même sensibilité sur ces questions là. Et moi aussi, je me suis très poussée dans mes études à cause de ce rapport de domination qu'on peut avoir, ne serait-ce que dans la hiérarchie à l'hôpital et vis-à-vis des patients, qu'on enseigne aux étudiants et qui se répètent de. On génère exactement les mêmes schémas avec les différentes promotions d'étudiants. Et je me dis qu'il y a peut-être un truc à enrayer aussi, c'est oui, agir du côté des patients, mais aussi agir du côté des soignants. Et est-ce que vous avez des espaces d'ouverture avec des soignants qui viennent vous voir pour. Pour déconstruire un peu ça.
C'est toujours une grosse question de savoir si tu te contentes de ta pratique ou si ton engagement s'élargit à aller modifier d'autres pratiques. Je crois qu'on n'a pas vocation à ça pour l'instant. Maintenant, c'est aussi peut-être faire découvrir déjà cette alternative, ça peut déjà faire questionner. Et puis c'est aussi quel espace d'esprit critique il existe dans les études dans les espaces professionnels pour développer ça. Maintenant, aller combattre contre des grosses machines et des grosses institutions, c'est juste une ambition, mais non.
On parle de plaidoyer dans nos projets.
Ça pourrait passer aussi par la formation, ou par l'intervention dans les cycles de formation.
On est trop jeune, on est trop petit.
Ah,
quand même, ça c'est une question qui se pose.
Dans le rapport aux institutions, par exemple, ça passe par les personnes qui les représentent. Des exemples concrets avec l'Agence régionale de santé, par exemple. C'est une échelle qui est très, très petite, mais quand on fait des réunions pour des projets de prévention, promotion, on apporte notre vision, on essaie d'être fidèle par rapport à nos passés, ce qu'on fait, donc ça crée des échanges, on essaie un petit peu, mais de manière sporadique, à travers les personnes dans les institutions. Après,
vous êtes bien accueilli face à des personnes d'institutions
telles que. Camille, je te laisse répondre, mais c'est vrai que ça dépend des pôles, peut-être.
Pôle
premier recours et pôle de santé publique. Il y a des choses qui sont un peu différentes. Ça dépend des pôles.
En tout cas, le podcast est quels sont les freins et les leviers à la création de ces espaces-là, de ces centres de santé. Et une des grosses trois thématiques qui est ressortie, c'est le lien à l'institution, le conflit à l'institution et l'incompréhension du modèle. Les cultures métiers différentes, le turnover au sein des institutions qui est obligé à répéter toujours le même discours, le même projet, avec l'impression qu'il n'y avait aucune continuité. Je crois que c'est bien qu'elle nous dit ça, mais effectivement, c'est plutôt personne dépendante que institution dépendante. C'est-à-dire que si tu as la chance de tomber sur la personne qui est sensible à la question à ce moment T, avec tous les enjeux de turnover politique qui vont avec, et donc aussi de temporalité, avec des projets qui se sont créés à des périodes de mouvements politiques favorables, et bien, ça a été facile d'obtenir 200 000 euros, et puis 3 ans après, c'était foutu, quoi. Donc voilà, la question peut-être individuelle, et puis la question politique.
Plusieurs choses. Moi, c'est évident que il y a une dimension. Il y a une dimension. Ce que je revendiquerais, c'est de faire de la sociothérapie institutionnelle. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'aller mieux avec ce que je fais. Et comme j'ai l'impression que un usager a besoin d'aller mieux ou qu'un professionnel a besoin d'aller mieux, et donc la démarche participative dans mon idéal une vocation thérapeutique collective où on est bien dans de l'aller mieux qui passe par de l'institution ou donc pas de l'institution. Le mot institutionnel, il est important pour graduer justement aussi bien le rapport interpersonnel que le rapport collectif, quoi. Donc il y a cette envie-là. Alors, est-ce que pourquoi de la sociothérapie institutionnelle? Je pense il y a aller mieux, puis il y a quand même un peu la dimension d'émancipation. Tu évoquais Castoriadis. Je pense que il y a des moments un peu moins dépendre de contraintes, s'émanciper de contraintes, ça fait du bien qu'on soit universitaire, usager ou professionnel. Il y a un besoin d'émancipation là qu'on partage. Alors, quelles contraintes on arrive à s'émanciper ? Sur quoi on a du pouvoir ? Sur quoi on a du pouvoir ? Alors, c'est un peu différent pour les uns et les autres. Et c'est forcément assez contextualisé. Je crois pas beaucoup. Moi, j'ai eu la chance de. Donc, ça, c'est aller un peu au groupe de travail ministériel, je sais pas quoi. Je crois que ça me fait plus plaisir. Je sais pas, non, c'est pareil. Mais c'est un type de nourriture différent que le moment. Aller à Namur en Belgique avec l'un des facilitateurs chercheurs. C'est compliqué de se retrouver là-bas, et puis le téléphone portable s'arrête, et puis que l'auberge de jeunesse, elle est à 6 km, et comment on va se retrouver pour y aller.
Une aventure, quoi.
Et puis là, voilà, c'est ça, une aventure. Donc cette dimension aventureuse, effectivement, elle est importante pour sentir qu'on a du pouvoir sur soi, quoi. Alors, ça me donne envie de dire deux autres choses. La personne absente, la personne qui devrait être là, qui est absente, il y a deux choses. Là, il y a du pouvoir du patient, c'est évident. Il y a du pouvoir dans l'absence qui est dur à encaisser à chaque fois. À chaque fois, l'absence de l'autre, c'est dur à encaisser, quoi. Donc là, il y a de la symétrisation à l'œuvre. Et puis il y a du travail du négatif à l'œuvre. Je sais pas comment le dire autrement, mais il y a du travail du négatif. L'absence produit des choses. L'absence met de l'intelligence en action. Ah, pourquoi la personne n'est pas là? On est d'abord abattu. Et puis dans ce négatif de l'abattement, il y a des énergies, il y a des forces qui reviennent, qui peuvent être des forces d'intelligence. Et je donne un exemple, rien à voir, mais on a essayé de recruter collectivement une coordinatrice pour notre groupe, et donc à un moment donné, on s'est dit, c'est bien si c'est une personne en situation de handicap. Ça fait plein de conflits. Bon, on a une personne qui candidate, elle était, je sais pas comment dire, elle était trop élevée au moment de la candidature, elle était pas bien, quoi. Elle était pas bien. Bref, au bout de 5 minutes, elle part, quoi. Donc, on n'est pas bien. Voilà. On n'est pas bien, c'est de notre faute si elle part, qu'est-ce qu'on a fait là, on y met plein d'énergie. Et puis, mais là, c'est les collègues qui étaient là. Il y avait un gars qui a des déficiences intellectuelles fortes, qui ne sait pas lire et écrire. Un autre gars qui n'est jamais là, et il est toujours absent, quoi. Et puis, hop, il est là. Et puis là, ils avaient des... Ce qu'ils décrivaient de la situation, bah, c'était hyper juste. Ils me sortaient de mon marasme. Donc, le négatif, il suscite... il me fait... Là, il m'a tout de suite donné à voir l'intelligence du gars réputé en déficience intellectuelle, l'intelligence de celui qui est là que par à coup. Bah, là, leur contribution à l'intelligence collective, elle était évidente, tu vois. Et donc, ce travail du négatif, je trouve qu'on a du mal à la penser maintenant. Et moi, je trouve que vraiment, l'intérêt, de plus en plus, je pense que l'intérêt de penser la participation, c'est que ça nous oblige à penser l'absence, quoi. Ça nous oblige à penser le retrait, ça nous oblige à penser le fait que, bah, non, on ne fait pas participer les gens malgré eux, sauf si on les contraint et c'est pas ce qu'on a envie de faire, quoi. Et le dernier point sur le pouvoir, moi je trouve il y a le terme de pouvoir, il ramène vite au rapport de force, et c'est évidemment un lieu hyper important, le rapport de force, mais moi j'ai l'impression aussi que l'un des enjeux de la participation, c'est parfois de s'extraire du rapport de force, ou en tout cas, sur les histoires de la participation dans le monde du handicap, moi j'ai vachement entendu ce qu'ils appellent les anglo-saxons ces temps-ci le waouh moment. Le waouh moment, waouh, waouh. On s'enthousiasme, quoi. Waouh. On comprend un truc qu'on comprenait pas jusque-là, quoi. Moi, je trouve qu'il y a du politique là-dedans. Le politique, c'est pas que le rapport de force, c'est aussi le moment où, waouh, on comprend un truc ensemble que jusqu'alors, on comprenait pas, quoi. Et alors, voilà, c'est... je sais plus où est venue la notion de pouvoir, mais ça m'a fait penser ça.
Mais enfin, cela dit, je rebondis. Tu dis il y a le pouvoir dont on se débarrasse, mais il y a aussi quand même le pouvoir dont on est dépossédé. Et moi, je note alors comme usager au long cours, j'ai été un gros usager, pas permanent, mais avec une certaine permanence quand même, la première moitié des années 90, en plus j'étais mineur, et alors objet de soins, dévoué, compétent, mais objet. Dans des choses, quand je les raconte à des soignants qui ont connu cette période-là, ils ne me croient pas. Non mais je le raconte pour la petite anecdote, voilà, j'avais 16 ans, et une aide-soignante me faisait ma toilette, en racontant ses vacances à la femme de ménage qui était en train de laver par terre la salle de bain. Voilà. Et c'est pas... c'était pas au 19e siècle. c'était il y a 25 ans. Alors, eh ben alors moi, ça je l'ai vu disparaître et disparaître de la possibilité en l'an 2000. Voilà, quand on a fait le droit des patients et quand on a commencé à avoir des comités d'éthique, des réunions de service. Voilà. Mais je veux bien croire que ça existe encore, j'ai confiance en l'humanité et en l'administration. Mais quand même, je l'ai vu, et retournant à l'hôpital pour d'autres raisons à la fin des années 2000, j'ai senti quand même qu'il y a des choses qui avaient bougé. Et notamment parce que je retrouvais des soignants qui étaient moins en souffrance. Et c'est pour ça que la souffrance du soignant... pour moi, elle est commune. C'est pas une souffrance différente de celle du malade. Quand on est en situation de soins, quel qu'il soit, quel que soit le domaine, au sens large, mal s'occuper de la personne dont on s'occupe est le principal objet de la souffrance. Et ce que j'observe depuis quelques années, j'aurais tendance à dire, mais je politise la chose, c'est depuis la tarification à l'acte, si je devais y mettre une date, c'est le retour de cette souffrance-là. et qui est une souffrance commune. Et en même temps, dès que la souffrance réapparaît, c'est là que je fais le lien avec ces enjeux de pouvoir. Quand la souffrance réapparaît, le réflexe de pouvoir réapparaît. Et le médecin veut reprendre pouvoir sur l'infirmière, qui veut reprendre pouvoir sur l'aide-soignante, et le patient qui redevient patient à ce moment-là, et objet de soins, qui reste compétent et dévoué, mais où le pouvoir rassure. Et je crois que le pouvoir que l'on a et celui que l'on subit, même si on en parle différemment, je crois que c'est aussi quelque chose qu'on a en commun tous, dans toute cette chaîne-là, c'est... comment dire ? Le pouvoir rassurant de la normalité, au sens de la normativité, de la structure sociale, elle est violente, mais elle a le mérite d'expliquer la souffrance. C'est-à-dire que tout le monde, du directeur d'hôpital au patient, peut se plaindre du pouvoir, et donc la souffrance a un nom, elle a un visage, parce qu'il y a quelqu'un juste au-dessus qui exerce un pouvoir contre moi. Voilà. Et du coup, c'est très difficile, je trouve, de revenir sur ce pouvoir sans... il faut déconstruire l'idée que nos souffrances ne sont pas communes. Et ça, voilà, j'étais très intéressé, tu disais tout à l'heure, j'ai rendu compte qu'il fallait accompagner les médecins à recevoir cette parole. Et voilà, un ami d'amis avec qui j'étais en contact là, sur les notions d'accompagnement, j'ai appris à cette occasion-là qu'il y avait une université des patients à la Sorbonne. Voilà. Et du coup, maintenant, des médecins et des directeurs d'hôpitaux qui vont faire une année universitaire comme, comme patient. Et donc, lui intervient, il déteste le mot comme patient expert. Expérimenté, c'est déjà pas mal. Et il me disait, dans un hôpital où il intervenait, ça fait 2 ans qu'il fait ça, les médecins comprenaient ce qu'il disait quand il disait « Ne venez pas en éducation thérapeutique avec votre blouse blanche. » Vous vous présentez comme médecin, tout le monde le sait, mais ne venez pas avec le symbole de votre autorité et de votre pouvoir. Et il me dit « Ils sont venus en blouse blanche, et il a fallu... » Il comprenait mon raisonnement, mais il venait en blouse blanche, et il a fallu 6 mois, et c'est-à-dire... l'échec pour qu'il l'enlève. D'ailleurs, pouvoir de l'expérience négative, en l'occurrence, voilà, c'est l'échec. Faut cogner dedans, bien, pour passer à ça.
Waouh.
Modestement, pour faire un peu l'avocat du diable sur ces relations
assez... Je veux savoir qui est le diable.
sur ces relations qu'on oui. dit peut-être très fréquemment asymétriques entre le médecin et le patient, pour certains types, et c'est vraiment de patients, je pense à l'enfant en soins chroniques. Un enfant qui est suivi au long terme avec des parents autour de lui qui l'accompagne dans tout ça, dans cette relation entre le pédiatre et... il y a une place plus importante, j'ai l'impression, en tout cas, peut-être plus symétrique, de ce trio, enfin, ses parents, cet enfant, face au médecin. Peut-être un peu plus d'équilibre, en tout cas, par nécessité, peut-être, mais une place que les parents, parfois l'un plus que l'autre, mais prennent. L'enfant, difficilement, je parlerai plutôt dans une expérience que j'ai de souvent un des parents qui prend la place et qui va demander une certaine forme de soins, qui va, par sa connaissance experte du patient, parce que c'est le quotidien, l'accompagnement quotidien de l'enfant malade, va imposer aux équipes médicales, paramédicales, une certaine manière de faire. Et cet équilibre, il est très intéressant, je trouve, parce que ça vient peut-être d'une nécessité des parents qui rencontrent différentes équipes de soignants, qui doivent réexpliquer, se présenter de nouveau à chaque fois, donc qui ont finalement créé une expertise et se sentent peut-être plus à même de parler de leur enfant, de parler de ce qu'ils savent, de cette maladie, du traitement actuel, et ils ont une maîtrise, vraiment, c'est impressionnant, une maîtrise de tous les soins, une maîtrise de toute la maladie, de toutes les études autour de la maladie, des études, des recherches hein, qui ont été faites sur la maladie elle-même, et c'est vraiment hyper riche comme échange, et du coup, on ressent moins, je trouve, en tant que praticien, enfin en tant que médecin, ce rapport de dominant-dominé, et on a plus l'impression, mais peut-être que je m'égare, hein, mais j'ai plus l'impression d'une horizontalité, comme on en parlait, et de un travail ensemble, voilà. Mais c'est pour un certain type, voilà.
C'est aussi parce que vous êtes capable d'accepter ça. Parce que dans certains types de services, ce serait très mal d'accepter qu'il y ait des patients qui, enfin des familles de patients qui demandent à respecter un certain cadre.
Alors c'est critiqué aussi, hein, c'est sûr, quand il y a certaines équipes qui le voient comme vraiment, mais qui se prennent, ils vont pas nous dire ce qu'il faut faire, donc il y a beaucoup de rejets. Mais il y a une reconnaissance de cette expertise qui est quand même. Qui met à défaut d'ailleurs les équipes soignantes parce qu'on dit oh mince, attends, oh là là, je vais m'en prendre la figure, je vais pas faire tout bien. Donc il y a une reconnaissance de cette expertise, c'est sûr, de la part des soignants et une place qui est prise vraiment, je trouve.
Mais d'autant plus qu'elle est souvent très technique comme expertise.
Elle est souvent
elle a une très grande. Enfin, je me souviens sur des choses moins lourdes, mais comme. Travaillant dans l'éducation d'un enfant, on venait d'avoir le nom d'une AVS, et donc j'appelle les parents pour dire c'est bon, on nous a nommé une AVS, c'est la première fois qu'elle l'est. Et les parents me répondent très calmement, vous inquiétez pas, on en a formé trois. Et de fait, ils avaient une expertise du handicap de leur enfant et de ses besoins et de ce que la personne devait savoir et faire et. Qui était d'une technicité pratique très grande.
Et ça, c'est impressionnant hein, quand on laisse la place aux familles. Mais moi, j'ai cette sensation, je parle le discours intra-hospitalier, que parmi les soignants, on a du mal à laisser cette place-là. Et j'ai une anecdote. Quand j'étais étudiante, une patiente avec un diabète très sévère, qui était un petit peu, il y avait un rapport très difficile avec, avec les équipes soignantes, et l'interne avec qui je travaillais avait marqué sur la fiche diagnostique « chieuse ». Comment on appelle ça ? Je me souviens de ça, parce que c'est un petit peu dur. Parce qu'en fait, oui, c'était une patiente difficile dans la relation de soins, avec qui c'était difficile d'avoir une alliance thérapeutique. Mais du coup, elle n'était pas prise en compte dans la souffrance qu'elle pouvait avoir autour de sa maladie, pourquoi mettre ces mécanismes-là en place de défense et compagnie. Et en fait, elle a juste été étiquetée chieuse. Et ça, personne ne l'a remis en question. Et c'était normal qu'en plus, nous, aux étudiants, on montre ce genre de choses.
Et avant de l'avoir.
Oui.
Donc il y a déjà un diagnostic médical, l'autorité oui, portée.
C'est absolument odieux ce qui s'était passé à ce moment-là.
En plus, mais, c'est adorable.
Et ça, c'est des comportements que j'observe. Au quotidien, mais aujourd'hui, parmi mes confrères.
Non, mais du coup, moi j'ai une question, parce qu'en fait, on a tous des postures et des positions différentes. Tu vois, là, tu parles en tant que soignant, moi je ne suis pas soignant, mais on a tous une expérience d'usager. Ouais. Tous. Et je ne sais pas, on pourrait faire un tour de table, je pense que dans l'expérience d'usager, la question de la dissymétrie viendrait très très rapidement. Très rapidement. Donc, il faut peut-être partir de ça, tu vois. Pourquoi, si tu veux, moi, ma question après, c'est sur la question de la santé communautaire. Pourquoi les expériences de santé communautaire, hein, dont on connaît l'origine en Amérique du Sud, etc., qu'on continue à vendre, entre guillemets, si tu veux, dans les ONG, si tu veux, pour les pays du Sud, pourquoi c'est toujours des publics qui sont des publics pauvres ? Pourquoi ça, si tu veux ? Est-ce que la question sur la resymétrisation, de la dissymétrie, finalement, ne pose pas tant de problèmes que ça, si tu veux, aux gens qui ont un peu un capital social ? Moi, je sais que j'ai déménagé, je vais vous parler en tant qu'usager, j'ai déménagé, j'ai changé de médecin généraliste, je suis arrivé à la campagne, on m'a expliqué que c'était impossible d'aller sur la liste des médecins généralistes parce qu'il n'y en avait pas assez. Donc je suis allé dans un centre de santé et il y avait un médecin qui me disait: je suis au bord de la retraite, je prends plus personne. Il était plutôt sympa, je lui ai demandé de ses nouvelles aussi, tu vois, je lui ai demandé comment vous allez, bon, ça a marché. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, bah, écoutez, il faut quand même me prendre, moi, vous savez. Et je l'ai joué stratégie, je lui ai dit, moi je suis bénévole à Médecins du Monde depuis quand même plusieurs années, faites un effort. Et le type, il m'a pris, tu vois, voilà. Non, mais je vous assure, c'est vrai. Et donc, je pense que, tu vois, dans la dissymétrie, quand même, il y a un certain nombre de gens qui ont des stratégies qui sont quand même un peu différentes. Et moi, je me pose la question sur la santé communautaire, c'est la médecine pour le pauvre, quoi. C'est une question que je pose, hein. J'aimerais bien qu'on puisse un peu discuter de ça. Là.
Oui, Hannah Arendt disait que tu connais bien, disait qu'on échange qu'entre égaux. Donc, à quel niveau la dissymétrie disparaît, quoi ? Entre qui et qui, quoi ? Je pense que les patients qui ont un capital scolaire, comme disait Bourdieu, équivalent à celui d'un médecin, n'ont pas de difficulté à effacer la dissymétrie. Mais pour les autres, c'est certainement beaucoup plus compliqué. Alors, pour revenir sur la question de la santé communautaire, j'ai fait des petites recherches historiques ces derniers temps là, sur la conférence d'Alma-Ata et sur ses origines en termes d'idées. Et il se trouve que ce qui a le plus influencé la conférence d'Alma-Ata et Afdan Mahler, qui était le directeur de l'OMS, c'est la conférence écuménique des églises protestantes, dont le siège se trouvait à côté de l'OMS à Genève, et qui faisait venir des experts, des médecins d'une commission médicale chrétienne au sein de l'OMS. Et la première fois que le concept de soins de santé primaire, de primary health care, est venu dans le débat public, ce sont les protestants qui l'ont amené. Alors je vous passe les détails, mais ils ont monté des réflexions théologiques sur la question de la guérison, avec des idées comme de healing church, l'église qui guérit, ou de community, healing community, la communauté qui guérit, avec l'idée qu'une personne malade au sein de sa communauté, c'est la communauté qui est malade, et donc dans l'interaction entre les deux, il faut qu'on arrive à la guérison. Alors la guérison vue évidemment dans un sens mystique, tout autant qu'un sens corporel, physique, spirituel, etc., quoi. Donc l'origine de la santé communautaire, c'est quand même aussi là qu'il faut la trouver, quoi. C'est bien dans une vision de la communauté comme étant une totalité, à part dans les milieux religieux, qu'ils soient chrétiens ou autres, c'est quand même difficile de le trouver ailleurs, quoi. C'est un peu compliqué, quoi, cette histoire de lien entre la santé de l'individu et celui de la communauté, quoi. Comment est-ce qu'on se le représente de manière concrète chez nous, quoi, comme ça, hein. Alors, bon, les anglo-saxons ont l'habitude de ça. Pour eux, la communauté, c'est la communauté autour du pasteur et de l'église. Et elle peut être territorialisée, c'est la paroisse. Hein. Chez nous, c'est quelque chose qui a beaucoup plus de mal à passer. Hein. On l'a perdu, cette idée de la paroisse. Hein. C'est fini, quoi. C'est loin derrière nous, quoi. Or, chez eux, ça reste toujours très vivant. Donc la santé communautaire, pour eux, ça a aussi ce sens-là, quoi. Alors, comment nous, on reconstitue la communauté ? Ça, c'est une autre question. Moi, quand je vous écoutais tout à l'heure tous les deux, la communauté, elle se constitue a posteriori. Elle n'est pas constituée a priori, quoi. Elle est a posteriori par les gens que vous agrégez autour de vous, par tout ce que ça produit, mais elle n'est pas constituée a priori, quoi. Vous ne la connaissez pas, quoi. On est d'accord là-dessus. Hein. Voilà. Bon, voilà.
Juste un point, oui, il y a certains théoriciens de la communauté qui disent que c'est l'absence, c'est le centre vide qui crée la communauté. Et ça rejoint un peu, il me semble, ce que vous dites, elle est toujours à construire en fait, elle est toujours à venir. Et ouais, sur comment ce retrait, comment la place vide est structurante, ça c'est. Pour moi, c'est un point important. C'est pas le même que la pauvreté.
Mais la pauvreté, si tu veux, c'est quand même aussi une histoire de manque. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y aurait. Enfin, si on veut faire des liens, hein, ouais, c'est peut-être un peu rapide, mais ça serait quand même l'idée sous-jacente que derrière, si tu veux, les personnes qui sont dans la pauvreté sont dans une situation de manque, si tu veux, et il faut remplir quelque chose qui est vide, quoi. Enfin, tu vois. Et donc créer de l'égalité, quoi. Et donc il faut aller vers elle. Mais c'est vrai que j'avais pas. Tu m'en avais déjà parlé tout à l'heure, mais j'avais pas du tout cette histoire de la santé paroissiale, finalement, de la santé communautaire, du point de vue de l'histoire, quoi. Enfin, je veux dire. Bon, je sais pas ce qu'on peut en faire collectivement, tout ça, mais. C'est une croyance, finalement, donc.
Du coup, à ce questionnement sur la santé communautaire, est-ce que c'est la santé des pauvres? En tout cas, c'est une question que moi je me suis beaucoup posée, et c'est quand même pas un hasard si, en tout cas en France, la santé communautaire arrivait que dans les quartiers populaires, ce qui est pas forcément le cas dans tous les pays d'ailleurs. Mais quand même, la vocation, c'est avant tout d'essayer de réduire les inégalités sociales de santé. Et du coup, questionner est-ce que ce modèle-là, il fait sens dans des milieux plus aisés. Bah, probablement que la participation, elle fait sens dans tous les milieux, que la question de l'empowerment, du collectif, elle fait sens partout. Maintenant, ça vient quand même aussi compenser un modèle qui est très inégalitaire, et donc et au moins questionner ça.
Oui, bien sûr. Jules Guesde, qui est un théoricien et politique, hein, socialiste, disait que chaque commune de France devait salarier un médecin dans chaque commune. Donc lui, c'était de la santé communale qu'il voyait, pas communautaire. Et effectivement, ça a été ensuite traduit par, par exemple, Robert-Henri Haseman, qui a été un secrétaire d'État à la santé sous le Front populaire, voulait créer des centres de santé communaux, pour répondre. Donc on n'était pas dans le communautaire, on était dans le communal. Alors quel est le passage de l'un à l'autre? C'est peut-être intéressant. Je sais pas comment vous voyez ça de votre place dans votre vision de la relation aux institutions, etc. Comment vous...
Est-ce que dans vos partenaires, il y a le centre communal?
Surtout pas, en fait. Surtout pas. En tout cas, une des premières choses qu'on s'était quand même dit à la base, c'était l'indépendance. Et des modèles communaux, il y en a, hein, mais l'influence politique et l'influence du financement est quand même non négligeable, donc pour nous c'est pas possible.
Surtout en ces périodes électorales où on sent la pression.
Ouais, on le sentira à tout moment, et puis voilà, le mouvement, si le projet s'auto-construit comme on l'espère, c'est surtout pas pour qu'il se déplace à chaque mouvement politique. Donc,
Ça, on peut continuer un peu la discussion, hein, ou pas? Parce que, en fait, si tu veux. Non, parce que ça peut paraître un peu intrusif, je voudrais surtout pas donner cet effet-là.
Ça va chauffer, là.
Non, mais c'est pas que ça va chauffer, c'est pas ça le truc. Il y a vraiment dans ce que. On peut se tutoyer?
Ouais.
Dans ce que tu disais tout à l'heure, au début, c'est cette espèce d'opposition entre la santé communautaire et la santé publique, si tu veux. Et en même temps, si tu parles des déterminants sociaux de santé, là tu viens de dire que l'une des justifications, si tu veux, de la santé communautaire, c'est les inégalités sociales de santé, qui est un vocabulaire et une grammaire, si tu veux, éminemment santé publique. Donc en fait, la question que je pose, c'est comment... C'est pas aussi net que ce que tu disais au départ, c'est-à-dire comment à un moment donné...
on articule ces problématiques de santé publique, qui sont des problématiques quantitatives, de grand nombre, etc., avec la santé communautaire. C'était ça un peu ma question. Hein. Parce que c'est un peu juste, si tu veux, de dire que la santé communautaire va réduire les inégalités sociales de santé. Enfin, c'est pas trop sérieux, excuse-moi. Ouais.
Venez pour aller dans ce sens-là. C'est, enfin, moi, j'ai rencontré, je rencontre indirectement votre centre. J'avais discuté avec un centre à Grenoble, je ne sais pas avec quoi, Camille, Chirol, et il se posait la question du salaire des médecins. Je crois que vous posez un peu la question. Et il y avait cette notion, bah, de toute façon, là, chez nous, les médecins seront moins payés. Et donc, l'idée, c'était d'arriver à convaincre, le problème, c'était d'arriver à convaincre des médecins à être moins payés pour. Et je pense que c'est un peu des débats que vous avez
régulièrement.
Et alors à la fois, est-ce que, je pense à ça, parce que ce que tu dis, est-ce que c'est la santé communautaire, c'est la santé pour les pauvres, et du coup, ben, pour que ça marche, il faut que les médecins deviennent pauvres eux-mêmes. Est-ce que on est là aussi dans un mécanisme de réduction des inégalités de fait, où finalement, c'est pas qu'on demande aux médecins d'être pauvres, mais on demande à qu'il y ait une égalité qui s'instaure. Et...
J'ai pas trop compris ce que tu disais, ça veut dire que l'action étatique a le monopole de la lutte contre les inégalités.
Alors ça, je sais pas
du tout.
Je sais pas qui c'est qui a le monopole, mais si tu veux, tout à l'heure, il y avait un discours auquel j'adhère d'ailleurs, si tu veux, sur le fait que la santé publique, c'est cette logique top-down, et que vous vouliez faire autre chose, la question de l'horizontalité, du local, etc., de la resymétrisation des positions, de la posture. Et je disais simplement que au moment où on dit la santé communautaire, on pose la question finalement très politique, pour dire est-ce que c'est pour les pauvres, on revient à une grammaire de santé publique. Donc j'interrogeais ça, si tu veux, c'est tout.
C'est pas le même angle d'attaque, finalement. Enfin, en gros, c'est plutôt vous partez du bas, et la santé publique, c'est les États, c'est les institutions qui décident, quoi. Mais c'est finalement le même objectif que vous essayez de
faire. Et quand même, parce que je trouve très brutal de dire inégalité, c'est pas une lutte contre les inégalités sociales de santé. La santé publique a pas le monopole du terme d'inégalité sociale de santé, et c'est pas parce que tu réduis pas de 0,1% sur un indicateur du ministère une inégalité sociale de santé, que tu réduis pas de fait dans la communauté des inégalités sociales de santé, quoi.
C'est sûr.
Et bien sûr. Oui. Non, mais moi je voulais juste ouvrir une discussion, j'avais pas. Et du coup, pas d'avis là-dessus.
Il y en a un qui part du haut et un qui part du bas. Il y en a un qui part d'une communauté politique au sens étatique, organisée, et l'autre qui part d'une communauté sociale. Et qui implique l'individu et pas le citoyen. Enfin, est-ce qu'il faut opposer strictement voter pour le projet politique qui va le plus réduire l'inégalité structurelle et l'engagement associatif ou d'ailleurs l'action individuelle voilà. D'ailleurs, est-ce que l'un peut se passer de l'autre ?
Mais c'est ce que j'allais dire.
Mais je ne sais pas s'il y en a un qui part du haut et l'autre du bas.
Ouais, ce que je voulais exprimer, c'est plus que ça part d'une échelle individuelle ou d'une échelle d'une communauté par rapport à l'État qui représente l'institution, que ce n'est pas une personne.
Moi, je voudrais déplacer un peu même si peut-être que ça fera revenir aussi à la question de la pauvreté, mais moi, une chose qui me marque, c'est que parfois, la volonté de maintenir la verticalité, c'est une demande sociale. Si je vais chez le médecin et que, en gros, il n'est pas plus compétent que moi, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Alors, je ne vais pas forcément chez le médecin. Donc, il faut que le médecin donne des attributs de cette compétence, même si ça reste un jeu social. Il y a une sécurisation dans le fait qu'il y a, des compétences qui sont distribuées socialement. Et oui, on peut parler tous ensemble, on a une expression pour discréditer ça, on parle du café du commerce. Il y a souvent des choses très intelligentes qui se disent au café du commerce. Et dès que... C'est quoi l'envers du café du commerce ? C'est se redonner des attributs souvent formels, artificiels, d'apparence, de compétences, quoi. Et qu'il y a une demande sociale assez forte là-dessus. Hein, il y a un groupe qu'on vient de faire, c'était pas très clair, est-ce que le professionnel était là à titre de personne vulnérable ou à titre d'animateur du groupe ? Tout de suite, on a dit, ça fragilise tout le monde, ça va pas faire revenir les gens, il y a l'attente de quelque chose de plus clair, de plus identifié, une apparence qui se tient plus, quoi. Et voilà, comment on réduit, comment on dissimule la blouse, jusqu'où on la dissimule, disons.
Je vois quand même l'exclusif, hein. Est-ce qu'il est là en tant que ou en tant que, pourquoi pas, et est-ce que quand j'enfile ma blouse, c'est le médecin, c'est pas seul moi, je cesse d'être moi, et par ailleurs patient, usager aussi. Est-ce qu'il faut être la personne ou le rôle, voilà. Et finalement, derrière la question, ce que tu dis, toi, t'emploies le terme de jeu social. Est-ce qu'il y a du, la question, est-ce qu'il y a du jeu dans le jeu social?
Moi, je pense que oui.
Mais enfin.
Et que c'est important de s'approprier en fait les représentations en fait des patients sur notre personne en tant que médecin et de laisser peut-être émerger la personne, le soigné. Que on nous apprend pas forcément. Parce qu'on apprend à être dans un rôle, une posture, ce dont tu parlais tout à l'heure. Et que, en fait, des fois, on s'interdit même de laisser la place au patient, de laisser la place à la personne aussi, de nous exprimer. Du coup, moi, j'aime bien quand tu dis le « et », qu'on puisse associer les deux. Mais par contre, on a besoin de prendre conscience de ce rôle qu'on peut avoir, de ce qu'on projette, enfin, ce que les patients projettent sur nous, parce que je pense qu'on peut pas s'en passer. Et comme tout à l'heure tu en parlais des rapports de pouvoir, il y a quelque chose de très déstabilisant, je pense, pour les patients de déconstruire ces rapports de pouvoir, et même pour les soignants. Et le fait d'avoir un cadre, il est aussi garant du fonctionnement de l'institution.
Et je peux, comme patient, ne pas vouloir que tu aies du pouvoir sur moi, sans vouloir que tu te défausses de toute responsabilité. Parce que je viens aussi consulter un professionnel qui a une action de professionnel. Enfin, dans les années 90, je me plaignais d'être un objet de soins, mais quand mon médecin me demandait, j'allais voir mon médecin en consultation, qui me demandait « Comment ça va, Nicolas ?» et je répondais « Au prix de la consultation, vous pourriez répondre vous-même. » qui est une manière de jouer, pour le coup, à la fois lui rappeler son rôle et en même temps d'une manière suffisamment impertinente pour rappeler, enfin, reprendre pouvoir quelque part dans la consultation.
Non, parce que est-ce que c'est jeu, je crois, ils existent dans les milieux populaires comme dans les milieux moins populaires,
c'est un peu ça la question. Ouais. Voilà. Mais juste une remarque, tu vois, sur la question de la blouse, ça revient très souvent ce soir. Je pensais pas que ça avait autant d'importance dans l'imaginaire des gens, mais c'en a, et c'est important. Mais je vois sur la question de la psychiatrie, tu vois, après 68, ils ont enlevé les blouses. Dans les hôpitaux psychiatriques. Et ça a duré, si tu veux, une dizaine d'années quand même. Alors il y en a qui, il y a des vieux mandarins qui ne voulaient pas les enlever, mais ceux qui étaient progressistes enlevaient la blouse, tu vois. Et puis, il y a quelques années, ils ont remis la blouse, c'est même une obligation, etc. Franchement, l'institution psychiatrique est toujours là, hein, qu'il y ait la blouse ou pas la blouse. Donc si tu veux, il y a un moment donné, tu vois, les attributs symboliques sont peut-être aussi parfois relativisés, quoi. C'est ça que je veux dire. Sur le long terme, en tout cas, oui. Tu vois, blouse ou pas blouse, il reste la hiérarchie, le médecin-chef, les infirmiers, les psychologues. Ça n'a pas beaucoup changé, si tu veux, les choses, sur la manière dont cette hiérarchie très importante à l'hôpital, si tu veux, demeure encore, peut-être même encore plus importante aujourd'hui, avec la question de la pression managériale. Mais je veux dire, c'est plus un problème de blouse, quoi. C'est ça que je veux dire, enfin, voilà.
Mais un truc qu'on ne peut pas mesurer, c'est la liberté de parole du patient face à ce médecin avec une blouse ou sans blouse. Le patient, il n'a pas le même rapport avec quelqu'un qui est habillé en civil qu'avec quelqu'un qui porte une blouse.
Et si on l'a lui déshabillé et éventuellement avec une blouse qui ne lui offre pas beaucoup d'intimité. Enfin, on a eu le débat il y a deux ans.
Sur la blouse, t'as un prénom. Moi, je fais partie d'un comité éthique d'un hôpital psychiatrique, si tu veux. Je me permets de le dire, je ne vais pas aller plus loin au niveau de l'anonymat. Mais ce qui est arrivé, si tu veux, à un moment donné dans la discussion, c'est pas le fait de la blouse. C'est le fait, si tu veux, que l'administration demandait, si tu veux, qu'il y ait le nom et le prénom. Tu vois. Donc, le patient connaissait, si tu veux, nominativement, si tu veux, la personne. Et donc, ils ont eu quelques situations où les patients ont regardé sur Internet, si tu veux, quelle était cette personne-là, et quelques personnes sont arrivées au domicile de la personne en l'attendant pour des raisons X ou Y sur lesquelles je passe. Mais donc, toi, la question de la blouse, ça peut être compris comme quelque chose qui me protège, si tu veux, au niveau de l'anonymat, c'est-à-dire une blouse en vaut une autre, mais en même temps, au nom, justement, si tu veux, tu vois, d'une resymétrisation, tu vois, des relations entre soignants et soignés, l'administration, tu parlais de l'administration tout à l'heure, l'administration demande à ce que, tu vois, les gens aient le nom et le prénom. Et donc, un certain nombre de syndicats infirmiers ont saisi le comité éthique en disant est-ce que c'est légal, qu'est-ce qu'on peut en faire, est-ce que c'est normal qu'on vienne nous poursuivre jusqu'à notre domicile, etc. Ou parfois, ils ont des téléphones personnels. Bon, voilà, après, le comité éthique a donné un certain nombre de réponses. Mais ce que je veux dire, c'est que la question des représentations, si tu as presque... c'est archétypal sur la question de la blouse, se joue peut-être aussi de façon un peu beaucoup plus subtile, si tu veux, maintenant, que le fait d'avoir une blouse ou pas, même pour le patient. Tu sais pas,
ça s'est quand même matérialisé par le fait que les soignants avaient leur nom qui était mentionné. Enfin, quelque chose qui est symbolisé, c'est pas la blouse. Mais il y a ce.
Alors après, ce voilà, nom, ouais. Ce nom,
le titre
nom
de
famille, hein, prénom et nom.
Ouais. Là, je trouve de ce que tu. L'habillement ou du badge, enfin, de ce qui est visible en tout cas sur la personne en face, je trouve que même dans juste le fait de se présenter en tant que médecin, voilà, on a ce rôle et cette dimension, au-delà, je trouve, d'avoir une blouse. Ouais. Même si tu rencontres des gens dans un milieu autre, en te présentant comme docteur, eh ben, tout de suite, il y a une espèce d'asymétrie qui s'installe. Que tu veux ou non, mais il y a ou peu importe. Hein,
quand tu croises un patient en dehors de l'hôpital,
voilà.
Il ne sait pas t'appeler autrement.
Ah ouais,
que docteur.
C'est ça, je trouve que.
Et c'est, non, mais il y a peu de métiers où. Mes élèves ne m'ont jamais appelé monsieur le CPE en dehors de l'établissement. Enfin, leurs parents, nous croisons au cinéma, m'appellent monsieur, comme n'importe quel monsieur qu'on connaît. Docteur, on le traîne avec soi. Il y a une espèce de dissymétrie un peu ontologique qui s'installe.
C'est aussi la manière dont je présente, puisque moi, les patients m'appellent par mon prénom.
Mais voilà, c'est une manière différente, effectivement, de gérer la relation et de. Qui n'enlève pas la dissymétrie, mais qui permet qu'elle ne s'installe pas de manière unique, définitive.
Quand on parlait de cette place symbolique qu'on avait laissée aux usagers dès le début du projet, et tu demandais elle est où cette place, je pense qu'elle est dans ces détails-là, elle est dans les espaces qu'on laisse comme la salle d'accueil. On a une salle d'attente, mais on a aussi un espace d'accueil où on boit le café, on boit le thé, et on peut, dans l'espace du centre, il y a des endroits où on peut avoir un autre rapport que le rapport soignant-soigné, on peut jouer, Camille, évidemment, avec le gamin à la voiture. Enfin voilà, il y a, je pense que c'est cette symbolique-là de laisser cette place pour une relation autre. Il y a des espaces et il y a des symboliques, comme effectivement s'appeler par son prénom. Et je pense que tout ça, ça concourt de la volonté et de la symbolique de la place de l'usager dans le centre. Mais bon.
C'est aussi l'expérience que je fais ici, quand je me retrouve avec des patients le soir. Il y a un embarras, en fait, à chaque fois, mais qui est sympathique, en fait. Mais il n'empêche que c'est un embarras au sens où, moi, je ne sais pas bien ce qu'il faut faire à chaque fois. Moi, je trouve ça rigolo, quoi. Mais il n'empêche qu'il y a il perdure un embarras. Et quand on se revoit en consultation, il peut qu'on soit embarqué dans le tutoiement. Il y a un rétro-pédalage qui se fait des fois, soit, donc on ne sait plus, donc on évite à dire, j'évite de dire tu. Et c'est vrai que c'est pas évident finalement de dépasser. Parce que moi, je sais pas ce qu'il faut faire. Hein, mais... Oui. Mais c'est marrant que cette expérience-là, en fait. Et...
Camille a essayé de faire des dépassés.
Eh ben oui, mais en fait, c'est assez rigolo. C'est vraiment. Ouais, mais je sais pas. Voilà, on change effectivement. Et puis un jour, une famille qui m'appelle par mon prénom, je lui dis Madame Martel. Je lui dis, je vous appelle Camille, vous pourriez quand même m'appeler Marie-Claude maintenant qu'on se connaît. Et effectivement, c'était une bonne meuf parce que, avec l'histoire de la dissymétrie, elle commençait là. Mais voilà, mon attente n'était pas forcément la sienne, et là, elle avait été quand même bien formulée.
Le temps passe. À 2h30 que nous échangeons.
Tout est enregistré.
Tout est enregistré. Ouais.
Le fichier va être trop lourd. Ouais, c'est ça. Il va embouteiller l'ordinateur.
Alors la question c'est comment on termine. D'habitude on fait un tour de table quand on est pas de mort, mais là on est un petit peu trop nombreux peut-être pour faire un tour de table. Nous allons tirer au sort quelqu'un pour faire la conclusion de la soirée. Non, je plaisante.
Donc,
attendez la bouteille sur la table.
Remarque, s'il est aussi rapide que le tour de table du début, c'est ouais. Pas mal.
Je crois qu'on peut. Ça peut être un mot, ça peut être zéro mot, ça peut être.
Un mot.
Je chronomètre dans l'autre sens, là, ça ne doit pas excéder. Mais.
Ben, c'est toi, du coup.
Non, dans l'autre sens. Ouais, je peux commencer à. À vous remercier d'avoir participé et je trouve que c'est il y a toujours un truc un peu j'allais dire magique qui se passe, mais on se dit ça va être intéressant, puis en fait à chaque fois c'est très intéressant et voilà, c'était particulièrement comme ça ce soir, donc je suis bien content.
Tu as entendu ce que tu as voulu mon nom? Il était merci. C'était
ouais, c'est vraiment bon.
On peut dire un peu plus qu'un mot.
Dans un quart d'heure, ça va être payé.
Rapidement, non, je voulais remercier parce que je ne savais pas du tout quoi m'attendre, ou je ne savais plus ce que je venais chercher là, voilà, ça c'est du bon temps, mais ce qui était fait. Mais j'ai beaucoup appris sur toutes ces autres dimensions par beaucoup d'interventions qui étaient hyper riches, de choses que je ne connaissais pas du tout de sociologie, et, entre autres, mais d'énormément de nouveautés dans peut-être ma réflexion. Donc, merci beaucoup. Ouais. C'est beau.
Moi, du coup, c'est la première fois que je viens avec le café et je ne suis pas déçue. Je suis contente parce que je cherche un apport de sur le bien-être social qu'on n'a pas forcément dans nos études et c'est dans le genre de milieu, je pense que je peux le trouver. Donc.
Bah, merci. Du coup, ouais, j'étais pas forcément très à l'aise pour participer, donc comme quoi la participation, ça, je pense que ça se construit. Et puis sur les rapports de dissymétrie, je voulais juste, enfin je l'ai pas dit tout à l'heure, mais nous, on travaille beaucoup sur la participation avec les gens qu'on accompagne, et cette année, l'année dernière en santé mentale, on avait plein de lieux qui leur demandaient de participer. Et on a beaucoup de gens qui nous ont dit qu'ils en avaient marre, qu'on leur demande de participer. Une espèce d'injonction à la participation. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que j'ai une collègue qui a accompagné un groupe, je ne sais plus où c'était, peut-être la métropole, enfin, sur la participation des usagers. Et elle a été super choquée parce qu'elle m'a dit, on est arrivé dans une salle, un peu salle de conseil, avec des micros où il fallait appuyer sur le micro pour parler. Et nous, les gens qu'on accompagne, ils n'ont jamais fait ça. Donc déjà, c'est déjà difficile pour nous de le faire quand on est sur des grosses réunions. Mais on voyait bien qu'en fait, la participation, elle n'avait pas du tout été pensée, parce que les gens, ils n'ont déjà pas l'habitude de prendre la parole. Ils ne savent pas forcément parler à deux, trois. Alors, parler en public, c'est hyper difficile. Mais alors, en plus, appuyer sur le micro qui ne marche pas, enfin, voilà. Donc, je pense que c'est... Ça, c'est déjà assez dissymétrique comme manière de penser la participation pour des gens qui ne parlent jamais en public, qui s'imaginent difficilement. Voilà, c'est une chouette soirée.
Merci. Je vais continuer sur un grand merci. Et puis oui, c'était très, très riche et très inspirant pour les pratiques qui sont aussi en lieu. Donc merci.
Moi, je dirais que la conclusion que j'en tire, c'est qu'effectivement, tout est question de posture. Hein. Vraiment. Ça revient à chaque fois, il y a une question de... C'est dans la tête, quoi. C'est si on laisse la place... La personne va l'apprendre spontanément, mais il faut déjà nous travailler sur nous pour pour pouvoir traiter cette question. Donc ça vous confirme ça. Merci.
Moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Benoît, moment sur la verticalité, le besoin de... ou dans des cas où il y a trop d'horizontalité, justement, où l'usager va revenir vers le professionnel. C'est aussi un autre mot qui n'a pas beaucoup été prononcé ce soir. Ce besoin de verticalité qui revient, on le voit dans le sujet que je fais sur la tutelle. Et il y a une réflexion qui revient dans mon travail, je pense que peut-être que vous l'avez rencontré vous aussi, c'est quand, justement, à force de horizontalité, la personne en face de vous qui attend de vous un service vous dit « c'est vous le professionnel ». Ça me choque à chaque fois, je dis « ah, on m'en met en cause, j'ai pas fait mon travail comme il fallait » ou « faut, c'est vous le professionnel ». Juste une début de réflexion.
Moi, ce que j'en garde, c'est cette notion de jeu. C'est, voilà, la pièce de ce soir, je l'aurais appelée les jeux de la souffrance et du pouvoir. J'espère qu'on l'a pas joué, mais qu'on en a parlé.
Ben, moi, je trouve ça très intéressant que cette question de la dissymétrie revienne un peu constamment au fil des débats. Et ça questionne vraiment ce rapport. Est-ce que... finalement cet espace on va dire de médicalisé, c'est un espace où il y a une personne qui va se déposer complètement, ou alors c'est un espace où on va coopérer, qu'est-ce qu'on va construire ensemble, est-ce que le savoir, moi j'ai l'impression que c'est pas une relation duelle, j'ai l'impression que c'est vraiment une relation triangulaire avec deux personnes plus le savoir au milieu, et la question, toute la question c'est est-ce qu'on peut s'approprier le savoir ? Est-ce que ça va devenir un enjeu de pouvoir, etc. Et aussi, ce qui m'a marqué vers la fin, c'était la représentation mentale préexistante en fait qu'on peut avoir du soignant, une représentation mentale assez fantasmée, et qui, du coup, qui va induire, j'ai l'impression, une certaine posture intérieure au préalable. Et pour moi, cette posture intérieure, c'est vraiment elle qu'il faut questionner encore plus, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment de là qu'on va créer notre sentiment de d'illégitimité, et notamment Christian, pour rebondir, je rebondis toujours sur ce que tu dis, mais par rapport au le soin des pauvres, moi ça me ramène beaucoup à cette histoire, à cette notion de posture intérieure, c'est-à-dire déjà quelque chose qui est comme si on... Il y avait une incapacité en fait à prendre une place, donc il fallait forcément créer des structures qui allaient pousser ces gens-là à prendre leur place. Mais de quelle façon, enfin bon, voilà.
Et qu'on en marre de participer, comme tu dis.
Et voilà. C'est ça en plus. Ça. Donc un grand merci à tous.
Oui, merci beaucoup. Moi, ça m'est très utile. Ces discussions, parce que je m'occupe de programmes de santé à l'international, hein, dans des pays dits en développement, et sur ces terrains-là, le concept de santé communautaire est totalement manipulé, quoi, dans tout un tas de sens. Il est manipulé parce qu'il est très souvent instrumental pour répondre aux injonctions des bailleurs de fonds. On est tenu de faire du communautaire et de rapporter nos succès dans ce domaine-là, quoi. Et après tout ce que l'on a dit ici, on se rend compte à quel point ce concept est très politique, en fait, et quelle est notre légitimité à nous d'intervenir sur des terrains qui ne sont pas ceux de notre citoyenneté, hein, pour susciter des combats politiques ou des interventions politiques. Ça, c'est un autre débat, quoi. Mais je vous remercie. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Bon, j'habite trop loin pour venir à chaque session du Lendo Café. En tout cas, celle-ci, elle m'aurait été utile.
Bah ouais, merci aussi. On apprend plein de trucs à chaque fois. Moi, ça m'a conforté dans un truc et ça m'a ouvert un autre truc que j'avais pas pensé comme ça. Le truc où ça m'a conforté, c'est le fait de distinguer dissymétrie ou symétrie et réciprocité. Je pense que la dissymétrie est à défendre, on va le dire comme ça, si tu veux, mais qu'il faut créer de la réciprocité chaque fois que c'est possible. Enfin voilà, donc ça permet peut-être de penser la question de la verticalité, de l'horizontalité un peu différente. Et puisque je n'avais jamais pensé, ça c'est Benoît qui l'a amené, c'est vraiment cette question la question de l'absence. L'absence est fondamentale, si tu veux. C'est l'absence qui nous fait penser la question de la participation. Et ça, c'est à creuser. C'est une intuition féconde. Voilà. Merci, Benoît.
Ouais. Ouais, c'était intéressant. J'ai aussi appris beaucoup de choses. Et je trouve que tout ce que vous avez dit, ça pose beaucoup de questions parce que c'est un changement. Et on ne sait pas vraiment où on va parce que c'est beaucoup, beaucoup de questions. Mais je trouve que les réponses ne sont pas encore certaines. J'ai l'impression qu'on est dans un virage comme ça. On ne sait pas ce qui va arriver. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de changements qui se font, surtout dans les rapports avec les médecins patients. Je ne pensais pas qu'on se posait autant de questions de cette manière-là. Parce que moi-même, je ne me pose pas ces questions-là. Quand je vais chez le médecin, je ne me pose pas la question. Est-ce que moi, je suis experte ou est-ce que c'est lui qui est experte? Enfin, moi, je suis peut-être encore dans les schémas anciens. C'est intéressant de voir comment, du coup, aussi, tout ça se repense. Et c'est comme si la démocratie était en train de se reconfigurer, de se repenser, de prendre d'autres formes. Où le patient a... La personne prend plus de responsabilités aussi. Et je ne sais pas si c'est toujours bien. Oui, parce que je pense aussi, quand on est patient, parfois on nous demande aussi de signer des contrats, enfin de signer, je ne sais pas si c'est des contrats ou des... Comme quoi on sait les conséquences qu'on peut avoir, et parfois ça peut nous faire très très peur. On préfère ne pas savoir si l'anesthésie va être fatale ou pas. Ça, on ne peut pas savoir. Et je trouve que du coup, des fois, on nous responsabilise trop et il y a des choses qu'on n'a pas besoin de savoir. Parce qu'on n'a pas le pouvoir là-dessus. Donc voilà.
Alors, moi, je vous remercie aussi. Moi, c'est un domaine qui m'est pas vraiment familier, à part donc plus âgé. Donc, j'ai vraiment appris beaucoup de choses.
Moi, je dirais la même chose. J'étais passionnée même par vos interventions, votre générosité, surtout, ce qui m'a beaucoup frappée. À la fois votre inquiétude et votre générosité. Merci.
Oui, merci. Ça m'a bien intéressée. Ça m'a posé plein de questions, alors que j'arrive pas encore bien à formuler. Mais du côté de la psychiatrie et du côté de la psychiatrie de secteur, j'ai l'impression que c'est des questions qui se sont beaucoup posées il y a déjà longtemps, et qu'on est plutôt dans un gros mouvement inverse. Et du coup, c'est un peu désespérant parce que moi, je bosse depuis 10 ans et je suis arrivée dans des équipes où les questionnements sur la question de la dissymétrie, de comment on arrive à soigner quelque chose ensemble et qu'on comprend rien au départ, et puis qu'on va progressivement vers trouver quelque chose, qu'on n'est pas dans la recherche forcenée d'un diagnostic à tout prix dès la première rencontre, etc. C'est des choses où il y a 10 ans, ça faisait encore énormément partie de la culture des équipes, et là, on est dans des injonctions du côté des ministères, des recommandations de bonnes pratiques qui vont dans un sens totalement contraire. Et où du coup, je me dis, ces mouvements de balancier entre... qu'est-ce qu'on peut créer, qu'est-ce qu'on peut construire, et puis le besoin de verticalité, parce que ce qui est paradoxal en plus, c'est qu'il y a tout un tas de choses qui sont revenues par les associations de patients et par les associations de parents, notamment pour nous en pédopsie. Pour l'autisme, mais pas que, parce que là, on va arriver tout ce qui est les TND, les troubles neurodéveloppementaux, alors il faudrait tout diagnostiquer tout de suite et tout. Et ça arrive aussi par les associations de patients et de parents. Ça me pose plein de questions, je trouve ça tout ça très contradictoire. Et voilà, bon, je sais pas trop ce que je vais en faire. Et ça m'attriste un peu, en fait, de me dire qu'on réinvente des modèles qui ont été vachement pratiqués, où il y a eu aussi toute une émulation à créer des dispositifs, à créer des choses sur les territoires, à créer des lieux de non-stigmatisation, et ensuite on est dans un mouvement inverse, où on refusionne tout un tas de centres, on crée des gros trucs avec écrit hôpital du Vinatier dessus et tout. Enfin voilà, c'est un peu... C'est fatigant, quoi. Mais merci quand même.
Moi, je garde le mot de pauvreté. Peut-être avec celui de richesse.
Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas suivi.
Pauvreté et richesse.
Prochaine rencontre. Merci à vous tous d'être venus.
Si personne n'a dit que la soirée était une grosse merde. Parce
que j'étais, c'est toi qui lançais toujours ces tours de. C'est toi qui oui. À l'origine lancé des tours de table. Je rigolais parce que chaque fois on se disait si un jour quelqu'un pète un câble. Chier qui part, ça serait sacré. Hein.
Ça serait bien. Hein, ouais.
J'aurais dû m'asseoir plus près de la porte.
Bon, bah, voilà. Très bref, bah, merci à vous deux. J'ai beaucoup aimé la complémentarité de vos regards. Les interventions étaient très intéressantes. Je terminerai sur l'histoire de la santé communautaire. J'ai envie de jeter un petit coup d'œil. Une dimension que je connais pas. Mais...
La dimension paroissiale.
La dimension paroissiale. Et...
J'envoie des articles.
Plaisir de...
Juste
impressionné.
Deux mots pour terminer. Si vous voulez être au courant de ce qui se passe avec nos cafés, vous pouvez vous inscrire à la liste de diffusion. Très simple, vous allez sur le site internet et vous vous inscrivez, comme ça vous avez le programme et les différents courriers qu'on envoie. Et puis en partant, vous pouvez faire une participation à la chaussette Nicole Tissou pour participer à la soirée, c'est la source de financement de l'Ecole Café. Voilà, merci beaucoup et
merci. Merci. Merci.